zone, il est plutôt en Asie-Pacifique avec la Chine, hein, l'Australie, la Corée, le Japon, etc. Mais l'Inde, voilà, justement, l'idée, c'est d'ouvrir. Et nous sommes, nous revendiquons le fait d'être une puissance indo-pacifique, puisque nous avons des territoires outre-mer, des communautés outre-mer, la France est outre-mer, dans le Pacifique, à peu près 2 millions de concitoyens dans l'indo-pacifique. Et donc, nous avons une présence, nous avons une marine, nous avons une vocation globale. Et donc, travailler avec l'Inde, c'est aussi travailler avec un partenaire qui peut nous offrir des voies de diversification pour notre économie et d'autres choses par rapport au centre de gravité chinois qui s'est constitué depuis quelques années, enfin quelques décennies. Voilà, donc c'est aussi un intérêt grand stratégique qui s'inscrit d'ailleurs dans le schéma américain, en fait, hein, de contenir les ambitions chinoises à partir de l'Indo-Pacifique avec les partenariats, les partenaires et les alliés de la région. Donc il y a tout un faisceau, en fait, de raisons qui nous intéressent. Il y a là, comme vous disiez, il y a une histoire, il y a des partenariats qui remontent à beaucoup d'années, on a déjà vendu tout un tas de choses, de l'armement, mais d'autres choses.
Qu'est-ce qu'on importe, parce que
non, c'est une bonne question. Je pense que
les médicaments.
Oui, alors
les principes actifs.
Oui, les principes actifs. Enfin, et d'autant que, enfin, c'est devenu important à la lumière de la crise du Covid, puisqu'on s'est aperçu que tout cela était en grande partie centré en Chine, peut-être parce qu'on l'avait voulu. Donc là, on se dit c'est un petit peu moins critique. Peut-être, ça serait bien que ce soit chez nous quand même pas mal, je trouve. Mais bon, avis personnel. Mais au-delà de ça, je ne pense pas qu'on ait des importations majeures, même s'il y a eu des coopérations très importantes, par exemple dans la sidérurgie, dans l'acier.
Mittal,
etc., qui a racheté des entreprises. Donc, en fait, c'est des coopérations qui sont plus ou moins, enfin, dont on essaie de tirer profit, mais qui sont aussi parfois des actions, en fait, indiennes. Qui viennent et qui se permettent, qui peuvent racheter des stratégies économiques, qui peuvent racheter des choses qu'on n'est plus en mesure d'entretenir comme on le souhaiterait. Donc c'était le cas dans la sidérurgie typiquement. Hein. Donc on a dû ouvrir notre marché après le sinistre des années 70, 80, 90. Bon bref, donc mais c'est pas forcément un exportateur majeur pour nous, mais c'est surtout un marché absolument prodigieux. Surtout un marché prodigieux.
Et est-ce que l'Angleterre a gardé des liens privilégiés?
Oui. Si vous avez allez-y, hein, si vous avez des cas concrets, je ne sais pas, mais oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, on est souvent. D'ailleurs, vous me disiez la même chose, donc c'est intéressant parce qu'on ne s'était pas concerté, mais on a souvent cette vision aujourd'hui de l'occidental. Repentant, etc. Les acteurs, ce un courant que je ne partage pas, et avoir toutes les choses de manière extraordinairement négative en disant voilà, tout ce qu'on a fait c'était forcément catastrophique. Moi j'ai vu des Indiens, je me souviens d'une conversation avec un officier indien et sa femme, donc officiel indien, pas officier indien, qui savent que leurs paroles comptent. C'était aux États-Unis lorsque j'étais attaché. Et discuter avec l'officier, son épouse et mon épouse, voilà, c'était absolument charmant, etc. Avec toujours aussi dans un certain culte de la tradition britannique, de cet officier indien, il prenait son thé à 16h quand on était en cours, quoi qu'il en soit, et il en était très très, très fier, très très fier, avec une discipline très britannique, etc. Ils ont gardé beaucoup beaucoup de choses, et son épouse, dans la conversation, nous dit on a quand même eu pas mal de chance que finalement ce soit les Britanniques, parce qu'ils nous ont quand même apporté beaucoup de chance, et s'il n'avait pas été là, on ne serait peut-être pas aujourd'hui là où on en est en matière de développement. Alors, c'est à prendre, évidemment, à analyser avec du recul, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que disent d'autres pays, d'ailleurs. C'est-à-dire que la réalité aussi de ce qui s'est passé pendant des années, c'était des années, des périodes de colonisation, enfin, la colonisation, comme vous le savez, c'est l'histoire du monde, hein. Il n'y a pas que nous qui avons colonisé, d'accord, hein. Et d'ailleurs, l'histoire de l'Inde, c'est une gigantesque histoire d'invasion, de colonisation, et en particulier la conquête musulmane, qui sont quand même étalées de 1700 à 1800. De 700 à 1800 avec les Moghols, d'accord. Donc la conquête ottomane dans le Maghreb nous a largement précédé. Ce qui est intéressant, comme le faisait remarquer un ami algérien objectif, me disait, en Algérie, il n'y a aucune trace de la présence turque. Globalement, aucune. seule trace qu'il y a, c'est la présence française. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des colonisations qui apportent des choses, il y en a qui n'apportent rien. Je pense que les Indiens aujourd'hui pensent très sincèrement, ils ont gardé beaucoup de liens, et la langue déjà est essentielle, et c'est un outil pour le développement d'ailleurs. Donc, un avantage comparatif énorme. Et oui, bien sûr, c'est une période de colonisation, oui, c'est une période de domination, etc. Oui, ils ont proclamé leur indépendance, bien évidemment, mais il n'empêche que il y a eu interaction, il y a eu échange, et tout n'est pas noir et blanc, en fait. Et donc oui, les Britanniques sont... Il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas du tout le rapport entre les Britanniques aujourd'hui et les Indiens qu'il peut y avoir, par exemple, entre la France et l'Algérie. Ça n'a strictement rien à voir. Les conditions n'ont pas été... Et pourtant, les conditions du départ des Britanniques ont été catastrophiques. Pas seulement de leur faute, d'ailleurs. Puisque le séparatisme qui a eu lieu, la sécession, c'était aussi des dissensions internes. Gandhi lui-même a dit, mon plus grand regret, c'est que je n'ai pas pu... Je n'ai pas pu, Gina, etc., je n'ai pas pu éviter cela.
Dans ça, votre c'est... plan, vous parliez des infrastructures, vous n'avez pas parlé.
Oui, je n'ai pas développé parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais alors, je n'ai pas moi de tous les détails, mais tous les analystes disent oui, l'Inde aujourd'hui, elle a pour son développement socio-économique qui va de l'avant, elle est encore en retard sur le plan des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, techniques, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont
développées. Les Anglais n'ont pas apporté énormément là, sur ce plan-là.
Ben, très localement. Ça, l'immensité du territoire, puis avec les besoins aujourd'hui pour 1,4 milliard, il y avait peut-être 300 millions maximum d'Indiens à l'époque de la colonisation britannique. Ça a explosé au XXe siècle, la démographie indienne. C'est, ça n'a rien à voir. Donc en fait, il y a bien sûr des choses qui ont été faites, mais à minima, et aujourd'hui, sur l'étendue du pays, avec des zones qui sont encore très 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 pauvres, voilà, il y a encore un gros besoin de routes, mais aussi d'infrastructures ensuite cyber, etc., de réseaux, ça se développe, réseaux électriques, etc., mais y compris d'ailleurs abduction d'eau, ainsi de suite. Il y a encore de tout à l'égout. Je vais pas faire de mauvaises plaisanteries, etc., mais comme me l'a dit mon fils quand je lui ai dit tiens, je vais faire un truc sur l'Inde, etc., sur le processus de développement, il a un esprit très sarcastique, il m'a dit ah il faudrait peut-être déjà commencer par le tout à l'égout. Ah mais non, mais loin s'en faut. Donc vous voyez, voilà, donc quand on parle d'infrastructure, on parle de tout ça. Donc il y a des choses, il y a des progrès, ils construisent en même temps, mais bon, à l'échelle du pays pour 1,4 milliard d'habitants, c'est énorme, c'est colossal, c'est des investissements phénoménaux. Donc ça prend du temps. Et aujourd'hui, par rapport à leur perspective de développement, leur potentiel, il y a ces infrastructures qui demeurent insuffisantes. Voilà, au regard de... Ce n'est pas le cas en Chine où ça s'est bien plus vite et de manière bien plus phénoménale développé, en fait. Ce que je dis, il y a un vrai décalage, hein, au moins générationnel, entre l'Inde et la Chine. D'ailleurs, ça a frustré beaucoup d'observateurs, pas seulement indiens, occidentaux, etc. Moi, j'en ai discuté avec des gens qui connaissent bien la région, qui disaient on se pose quand même des questions. Est-ce que l'Inde va finir par décoller? Parce qu'on voyait la Chine, enfin le miracle chinois qui est quand même dans l'histoire, c'est quand même exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire. Hein. Je sais pas où ça ira, mais en tout cas, c'est assez exceptionnel. Et à partir de 79, ils ont décidé, hein, c'est Deng Xiaoping qui a décidé en 79, on arrête. On arrête les conneries.
On fait confiance au marché.
D'accord. On arrête les conneries. Ok. C'est un pays en ruine, complètement arriéré. La Chine de 1979. D'accord.
Oui.
C'est un fait, ça. C'est un fait. Bon, on arrête. Notre seule voie, d'ailleurs, pas seulement pour le bien de la population, mais pour le bien du parti, si on veut survivre, il va falloir quand même qu'on apporte quelque chose. Ça peut plus durer. Donc. Développement, ils s'y sont mis, mais ils s'y sont mis de manière remarquable. Ils s'y sont mis de manière remarquable. Et oui, ils ont construit, etc. L'entrée à l'OMC, c'est nous qui avons.
Oui, qui les a fait rentrer.
Et alors qu'ils ne remplissaient pas les critères, mais on l'a fait parce qu'on avait notre catéchisme, le catéchisme géopolitique occidental, qui s'est avéré être une illusion, en fait. C'était que si la Chine se développer économiquement, etc., forcément, elle allait, entre guillemets, se libéraliser, comme dans le sens où on l'entend, nous. Forcément, parce que pour nous, dans notre catéchisme occidental en matière de développement socio-économique et sociopolitique, il y a forcément corrélation directe entre le niveau de développement et le libéralisme, la démocratie, le libéralisme politique, le régime politique. Donc on s'est dit, ça va être un. Et en fait, c'est tout faux. On s'est planté, on s'en est rendu compte au début des années 2010. L'administration Obama aux États-Unis a commencé à dire, ça commence à être délicat. Et d'où ils ont commencé à parler du pivot vers l'Asie, parce qu'ils se sont dit, attention, là on a un vrai concurrent. Parce qu'en plus, et puis peu de temps après, il y a eu la radicalisation du régime. Aujourd'hui, le régime sous Xi Jinping, c'est la véritable dictature communiste. Hein, mais qui bénéficie d'une chose qui n'a jamais existé dans l'histoire, à laquelle on n'avait jamais pensé, parce qu'on ne pouvait pas, c'était difficile quand même de l'anticiper. De deux choses, une richesse financière et économique incroyable, et surtout une richesse financière fiduciaire, des liquidités, etc., considérable. Donc ils ont des ressources, de l'argent, et les réseaux sociaux, la révolution cybernétique, les nouvelles technologies, avec une possibilité de pouvoir contrôler sa population, son pays, d'exercer un contrôle social dans la grande tradition du communisme. Donc, en fait, vous avez ce que certains, dont certains avaient pu rêver à leur époque, eux, ils peuvent le faire de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus discrète au quotidien. Et c'est accepté jusqu'à ce jour par la population. Ben, c'est accepté par la population qui trouve son intérêt, parce qu'elle trouve un intérêt dans le développement socio-économique d'une part, et qui ensuite, et ça c'est un point, et c'est à relier d'ailleurs avec l'Inde, ce qui est commun à beaucoup de ces pays, cette Chine, digression chinoise, cette Chine, la population chinoise dans son ensemble, ça c'est attesté par tous les chercheurs vifs de ce nom et objectifs qui connaissent vraiment la Chine, c'est-à-dire qui parlent le chinois, parce qu'une bonne partie des chercheurs français spécialisés sur la Chine ne parlent pas chinois. D'accord ? Donc ils ne connaissent pas le chinois. Mais ceux qui le disent, il y a un véritable nationalisme chinois. La population adhère parce qu'elle y voit la résurgence, la renaissance de la Chine, une civilisation multimillénaire, plurimillénaire. Et donc pour elle, ça vaut le coup, on y va. Et ça, c'est vraiment très très important. Et alors, dans d'autres conditions, dans d'autres proportions, il y a aussi cette volonté indienne aujourd'hui de dire, ben oui, voilà, on a ce passé, cette culture, cette civilisation dont on doit être fier, et donc on a un destin, on a une légitimité, on a un potentiel, allons-y, en avant. Et donc, et c'est un moteur absolument efficace. Donc c'est un trait commun à toutes ces puissances. Et dans une moindre mesure, on ne va pas développer ici, mais dans une moindre mesure, à sa manière, vous avez encore ce sentiment-là, c'est-à-dire ce sentiment d'avoir une forme d'exceptionnalité civilisationnelle ou culturelle, etc., en Russie, par exemple. La Russie se conçoit comme étant une ère ou une semi-ère civilisationnelle un peu à part, à la fois européenne, à cheval sur l'Asie, un peu des deux, unique. Et c'est un moteur aussi, pour dire, on a un modèle différent. Oui, on peut être très proche de vous dans certains cas. Il y a par exemple les racines religieuses, le christianisme, c'est quand même assez fondamental. C'est la version orthodoxe, mais c'est assez fondamental. En plus, il se voit plus comme le prolongement et les héritiers d'eux. Mais voilà, et on a un cheval entre l'Europe et l'Asie. Et donc, on a un modèle, une légitimité. Et tout ça joue beaucoup. C'est-à-dire que ça alimente une conscience, un sentiment national. Je ne parle même pas forcément de nationalisme. Un sentiment national qui est fort et qui ne veut pas s'en laisser compter par les uns ou par les autres. Voilà.
Il y a de la propagande.
Oui, mais bien sûr, mais il y a des formes de propagande.
Dit, le nationalisme hindou, ça devient ça aussi, hein, je crois.
Ça devient
Ça devient la même chose, c'est-à-dire les gens, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sont des adeptes de ça, de l'hindouisme et de la nation hindoue, quoi.
Oui, mais c'est pas forcément être négatif que de faire preuve d'un sentiment national. C'est pas forcément être négatif que de faire preuve d'un sentiment national, parce que je sais pas quelle est l'alternative en fait. mais après, il y a nationalisme et nationalisme. Vous savez que le général de Gaulle parlait toujours du nationalisme ouvert et du nationalisme fermé. Voilà, tant qu'il y a un socle commun, un territoire, des frontières, un gouvernement, etc. Bon, voilà, ça n'empêche absolument pas de coopérer, d'être ouvert, mais c'est un moteur très important.
Tu
Comme tout type de système, comme tout type d'approche, voilà.
Qu'est-ce qui fait le ciment des 28 États et comment Narendra Modi arrive à gouverner tout ça? Parce qu'apparemment, c'est une mosaïque.
Oui, oui, c'est très compliqué. Il y a des disparités.
Et comment ça...
Encore une fois, je pas un spécialiste du fonctionnement interne, mais d'abord c'est une grande disparité. Donc vous avez des États qui comptent beaucoup plus que d'autres. Voilà, il y a des États qui sont encore à un niveau de développement très 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 faible, voire quasi inexistant. Ouais, il y a des pauvretés endémiques dans tout un tas de situations. Vous avez pas forcément d'ailleurs uniquement lié aux minorités, hein, c'est simplement des temps, de durée, des États qui sont géographiquement mieux pourvus, mieux situés, etc., qui ont accès plus facilement à l'eau, aux montagnes, ainsi de suite, des ressources naturelles entre guillemets à leur niveau. Voilà, donc c'est une grande disparité. Il y a effectivement l'Inde, y compris dans ce domaine, elle se distingue par exemple d'un État fédéral comme les États-Unis, où même s'il y a des disparités, globalement il y a une bien plus grande homogénéité de développement, même s'il y a toujours des États qui sont plus performants que d'autres, ou que la Chine avec ses provinces, où vous avez des provinces qui sont évidemment plus développées que d'autres, si on parle uniquement de la partie économique ou socio-économique, mais il y a quand même beaucoup moins ces disparités extrêmes qu'on trouve en Inde. Alors l'Inde, comment faire quand on a un gouvernement? Il y a une volonté à la fois de faire marcher ce qui fonctionne bien, puis en même temps de trouver des politiques. C'est pour ça que parfois même on va jusqu'au niveau sociologique à parler de discrimination positive pour qu'il n'y ait pas trop d'écart, pour attraper le retard, pour essaimer. Donc c'est le temps, c'est infuser les choses. Politiquement, ça s'équilibre via le système politique de la représentation, de l'Assemblée, de leur congrès, de leur Parlement, et puis de l'exécutif. Moi, je crois qu'il faut on peut l'analyser comme simplement un exercice de très longue durée, en fait, mais qui repose quand même sur une forme aujourd'hui grandissante de conscience indienne, nationale, qui fait qu'il y a une dynamique globalement positive qui porte un petit peu malgré tout le monde, en disant l'idée c'est qu'à un moment donné, à un autre, on va forcément en retirer plus ou moins, on va essayer en tout cas d'en retirer les fruits. Voilà, donc je pense que c'est ce qui est très important, c'est de, pour l'Inde à mon sens, c'est de maintenir cette dynamique, cette projection vers l'avant qui fait effet d'entraînement à terme. Et l'idée, c'est en espérant qu'à terme, évidemment, plus ça ira, plus de gens pourront rentrer, atteindre un certain niveau et entrer dans le cercle.
Le statut, c'est une fédération, l'Inde ?
Oui, c'est alors. Oui, mais parce que c'est lié au mouvement indépendantiste très connoté idéologiquement et politiquement. Hein, ce veut laïque et socialiste, mais il n'y a pas grand chose de laïque en Inde en fait. Mais oui, mais parce que c'est une idéologie, c'est une pure idéologie au départ. Voilà. Oui, mais la religion, elle entre forcément en ligne de compte puisqu'elle est fondatrice pour l'Inde et puis elle est. Elle modèle, elle façonne, et puis en plus un système de, à la fois de religion. Et je crois que c'est Braudel qui disait en fait en Inde tout est religion. Tout est religion de certaine manière puisque c'est la fondation qui a évolué. Mais en fait tout est religion parce que et d'ailleurs en Inde il n'y a pas de véritable distinguo entre, comme nous on le fait, entre la divinité et l'humain. C'est-à-dire que tout est d'une certaine manière plus ou moins divin. Vous voyez, et c'est vachement intéressant parce que c'est pas du tout le même rapport qu'on a. Donc, nous à la religion, c'est d'ailleurs aussi différent en Chine. C'est encore un autre rapport où la notion de divinité n'existe pas vraiment.
En ce moment, sur France Culture, là, les religions dans les différents pays dans l'émission de Philo le matin. Ouais. C'est intéressant.
Ouais. Et donc en Inde, donc en Inde, je pense que sur le système, c'est ça, c'est maintenir la. C'est maintenir la dynamique, trouver un ferment. Et je pense que le ferment, au-delà de la question du nationalisme, le ferment, il y a la question du sentiment national et puis il y a le ferment aussi du développement socio-économique pour être moteur et pour trouver en fait quelque chose qui transcende un peu les différences régionales, étatiques pour aller de l'avant. Voilà. Mais c'est un défi, hein. C'est d'une très grande complexité, effectivement. Et il y a des lois qui sont pas en contradiction, mais enfin, il y a des lois, des traditions par État, il y a des représentations, il y a des États qui sont gouvernés différemment, il y a des partis politiques en concurrence en fonction des États, les uns sont à la tête de l'exécutif de l'État et inversement. Donc oui, c'est toujours un grand équilibre, mais je pense que l'idée c'est de fermenter, d'adhérer, de fédérer et puis de porter en fait par cette dynamique pour éviter que tout ça se dissolve. Mais il y a de vraies menaces en interne. Hein, il y a une insurrection maoïste qui fait beaucoup de mal.
Il y a eu des marches des paysans aussi.
Voilà. Après, bon, il y a des révoltes, des rébellions populaires en fonction des situations, bien sûr. Bon, ça, c'est certain.
C'est dans quel coin de l'Inde ça se passe?
Alors, j'ai oublié le nom de l'État.
Mais géographiquement, sur la carte, c'est dans quel endroit?
Alors, il y a de la stabilité chronique dans le nord-est.
Oui.
Et il y en a aussi dans une partie du sud-ouest, mais je ne sais plus vous dire quelles sont les zones les plus concernées. Dans le nord-est, il y a une combinaison. Dans le nord-est, il y a une combinaison parce qu'il y a à la fois des fortes minorités musulmanes, donc il y a des tensions. Mmh. Il y a aussi en parallèle dans certains coins de certains États, donc ces fameux mouvements insurrectionnels ou plus ou moins autonomistes, maoïstes. Il y a évidemment toute la partie Cachemire et frontière avec le Pakistan, qui est très tendue, évidemment, hein, toujours. Et puis, il y a aussi des poches carrément dans le sud, hein, tout au sud, voilà, dans le Décal.
Parce que le Kerala, c'est la côte ouest.
Côte ouest, sud-ouest, oui.
Avec la Chine, il y a eu des problèmes aussi sur la frontière.
Alors j'avais une carte, une petite carte là.
C'est celle-là, là ?
Non, allez-y, plus loin. Il y a eu des guerres de l'Inde contre le Pakistan que l'Inde a emporté, mais l'Inde a perdu une guerre. Voilà. L'Inde avait perdu une guerre contre la Chine dans les années 60. Et
perdu un grand bout de glacier.
Voilà. Alors, par rapport au Tibet, il y a évidemment c'est la région autonome, enfin dite autonome du Tibet, bien sûr, qui est une zone problématique un petit peu pour l'Inde parce que elle y voit la Chine fait pression via l'intermédiaire du Tibet et il y a des poches contestées, hein, frontières indochinoises, vous voyez, des territoires carrément, toute la partie revendiquée par la Chine, c'est énorme. Vers le Brahmapoutre là.
Est très longue, hein, avec la Chine.
Donc c'est énorme. Ouais. Et puis évidemment, toujours pareil, dans une partie du Cachemire. Donc le Cachemire, c'est Inde-Pakistan, mais c'est aussi Inde-Pakistan-Chine. Voilà. Et donc tout ça n'est pas vrai. Et en 2019-2020, il y a eu des incidents très sérieux. Il y a eu des incursions chinoises. Hein. Donc il y a eu des morts, etc. Voilà. Et la Chine a conquis quelques petites portions de terrain. Les Indiens sont mobilisés. Et ils sont toujours mobilisés, donc il y a toujours des tensions. Il y a toujours des tensions. Hein. Donc voilà, oui, il y a encore des points. Alors, il y a des zones, c'est pas forcément énorme, c'est sur des petites superficies. Hein. Par contre, là où c'est plus problématique, c'est potentiellement évidemment vers le Brahmapoutre, là à l'extrémité, hein, au nord du Bangladesh, là, et entre la Birmanie et le Bhoutan, et puis vers le Cachemire, bien sûr. Où là, c'est des zones. Puis c'est des zones qui, entre guillemets, scotchent un petit peu les armées indiennes. Voilà. En plus, c'est extrêmement difficile d'y combattre, d'y séjourner. Le Cachemire, l'altitude, etc. Enfin, tout ça sont des zones très hostiles, très compliquées. Donc ils ont aussi ces difficultés, comme je disais, avec des voisins qui ne sont pas bienveillants. Mais ça n'est pas stabilisé. Voilà, ça n'est pas stabilisé.
Et il y a le problème de l'eau entre la Chine et l'Inde.
Alors,
les rivières qui partent de l'Himalaya.
Oui, alors il y a la Chine, mais il y a aussi des rivières qui partent de l'Himalaya dans une partie Chine. Il y a aussi le Pakistan, le Cachemire. Le Cachemire aussi. Derrière le Cachemire, il y a aussi au-delà des tensions entre Pakistan, Inde, stratégiques ou religieuses, il y a aussi la dimension, évidemment, ressources naturelles, approvisionnement en eau, etc. Oui. Puisque là, on est dans dans très haute altitude, des glaciers, des cours d'eau, et donc le contrôle, en fait, des fleuves. Et vous voyez que c'est pas inintéressant de constater le Gange, là, qui traverse, et quand on remonte le Gange, qui traverse la portion de la frontière avec la Chine. Vous voyez ?
Mais c'est vrai aussi pour le Brahmapoutre.
Et c'est vrai pour le Brahmapoutre aussi. Vous voyez, le Brahmapoutre, encore plus vrai. Vous voyez ? Donc ça, c'est... et donc ça, c'est des, voilà, c'est des enjeux. Parce que ça, c'est vraiment stratégique. C'est vraiment stratégique. C'est comme les problématiques que l'on a ailleurs entre... entre la Turquie, la Syrie, l'Euphrate, le Tigre, etc. Les barrages, ainsi de suite, le Nil, l'Égypte, l'Éthiopie. Voilà, voilà, tout ça, c'est le monde réel. Quoi. C'est voilà, le contrôle de l'eau, contrôle des ressources. Donc ce sont de vraies difficultés.
Encore plus aigu avec le Mékong.
Oui.
Et au niveau alimentation, pour nourrir tout ce monde.
Surtout qu'ils ne mangent pas la vache.
Non,
il y a eu des grandes famines, mais ça a disparu apparemment.
Oui, je comprends qu'il y a des famines. Alors après, en fonction des périodes, alors il y a des zones où évidemment, qui sont toujours tendues sur le plan alimentaire, plus en fonction des années, de la mousson. Quand les moussons sont irrégulières, ou quand l'année était particulièrement chaude, ben évidemment, ça a forcément son impact sur les cultures, sur les réserves, sur les récoltes, sur les réserves ensuite que l'on peut faire ou pas. Mais bon, globalement, il y a vraiment quand même de plus en plus, sinon une autonomisation, en tout cas une ouverture sur tellement de marchés internationaux que l'Inde arrive à la fois à cultiver et à s'approvisionner aussi. En conséquence, elle a, disons, maintenant les moyens, ne serait-ce que pécuniaires, d'acheter et nourrir. Donc elle va sur les marchés. Et là aussi, d'ailleurs, dans ce domaine... Les greniers à blé ukrainiens et russes sont toujours très importants pour elle, ou nous d'ailleurs aussi, dans une moindre proportion, on exporte aussi beaucoup. Voilà. Donc elle peut diversifier et elle peut acheter en complément, et évidemment elle continue de développer ses capacités. Mais l'agriculture, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, c'est plus un pays se développe, ils n'en sont pas encore là, mais plus un pays se développe, plus les gens veulent s'émanciper de la vie agricole. Et donc, il faut arriver à trouver une solution pour passer d'une agriculture de subsistance, ce qui est encore le cas en grande partie aujourd'hui en Inde, à une agriculture industrielle, en fait. Voilà.
Et ça, c'était la révolution verte, là, des années 60.
Voilà.
Mais je crois que ça n'a pas eu que des effets positifs.
Non, et puis ils n'y sont pas encore.
Plein d'engrais, plein d'autres applications de certaines cultures.
Eh bien oui, c'est le dilemme. C'est le dilemme.
La révolution verte, hein, en Inde.
C'est le dilemme. Tout comme chez nous, en France, on a des productions qui n'existent que parce qu'on les exporte. Elles ne nous servent à rien. On a tout un tas, toute une partie de notre production agricole pour laquelle on est obligé de recourir à des engrais plus ou moins toxiques, etc., qui, pour les autres, mais pour nous ça sert à rien, on pourrait très bien s'en passer.
Je rappelle que les silos qui sont sur le rond-point de Kretsé, ce qu'il y a dedans partent 50% en Algérie.
Ah oui.
Et c'est la coopérative de Verdun sur le Doubs.
Ils partent déjà comme en bateau, non, en péniche, non.
Ça a été partout.
Oui, oui, mais enfin.
Arabes,
oui, 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 non, mais en particulier.
Ils sont transportés en péniche, non, au départ.
Oui, oui, oui. Ça a été construit quand on a fait la déviation du machin. C'était déjà dans une logique d'exportation. Et non, ben oui, parce que c'était pas pour s'arrêter. Non. Les fameux silos là qui sont pas loin de où vous étiez, là, qu'on a visités il y a fort longtemps, et qui, ben voilà, donc c'est une logique d'exportation.
Moi, je voulais poser une question, mais c'est une question vraiment d'économie, comme moi j'ai fait pas mal d'économie. À un moment, il y a eu une démonétisation, alors sur le moment, je comprenais pas bien, des billets de... je sais plus... Alors, je comprends pas quel était l'intérêt pour... c'était en 2016, hein, j'avais noté ça, des billets de 500 et 1000 qui, d'un seul coup, n'ont plus de cours légal. C'est ce qu'ils ont appelé la démonétisation. Mais quel était... quel était l'intérêt, pour le pays, quoi. C'est Modi hein, qui a fait ça. Hein,
oui, mais parce que c'était
pour... Démonétisation. Donc d'un seul coup, les gens n'ont plus le droit d'utiliser ces billets-là.
Mais c'était pour lutter contre la corruption.
Oui, mais or, justement, le problème, c'est que la plupart des échanges pour les gens, pas les...
De base, oui.
Se faisaient en liquide.
Oui, oui. Ben,
donc,
il
paraît que ça a été...
Dramatique.
Oui, alors au départ, c'était peut-être pour essayer,
d'éviter les pots de vin.
Je pense que c'est pour assainir, en fait. Je pense que c'est pour assainir, et bon, ben...
Mais apparemment,
c'est,
oui,
mais c'est radical, mais à un moment donné, je crois que vous n'avez plus le choix. Alors après, économiquement, l'impact, je ne sais pas.
Mais vous savez
mieux que moi...
Au départ, je vois des monétisations, je comprenais pas.
Vous saviez mieux que moi.
De 500 et 2000 roupies.
C'est-à-dire que ça représentait quelque chose
d'élevé,
une somme élevée.
Oh, bah, je ne sais pas pourquoi.
Non. 500 roupies, ça ne représente pas grand-chose.
Oui, mais c'est des billets très utilisés parce qu'il y a beaucoup d'échanges en liquide, notamment
dans... Alors, il y a la volonté en...
Et dans les petits artisanats.
Il y a volonté en Inde, mais comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, hein, de développer l'utilisation des moyens de paiement électroniques, etc. Aujourd'hui, en Afrique, dans certains pays d'Afrique, dans des pays qui sont largement moins développés que nous, les gens ils font tout avec leur téléphone, avec leur carte. Hein. Donc je pense que c'est aussi cela, c'est-à-dire ça permet ensuite un contrôle plus facile de la circulation monétaire. Quoi.
Oui,
alors c'est probablement un moyen radical pour trancher le nœud gordien. Mais non, il n'y avait pas de logique autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la volonté de l'Inde de prendre un risque sur le plan économique en matière d'inflation ou de je ne sais trop quoi. Hein. Voilà, non, mais c'est un pays intéressant, c'est sûr. Hein.
Ils ont beaucoup de freins quand même.
Ah oui, oui. Ah oui, c'est
à la terre.
Ah oui, absolument. Oui. Absolument. Oui. Absolument. Ça reste très contrasté.
En fait, j'ai lu beaucoup dans le monde, hein, les articles du monde, il y a cinq gros conglomérats en Inde qui sont très liés au pouvoir politique.
Oui.
C'est ça, en fait, on a parlé capitalisme de connivence. Hein,
c'est
un peu comme en Corée du Sud.
Oui, bien sûr. Donc. Qui ont été quand même privilégiés, qui ont eu des facilités pour se développer. Non, mais je dis par rapport au reste, quoi, de l'économie.
Oui, comme vous savez comme moi, le monde a aussi une lecture économique et socio-économique du monde qui est la sienne, qui est teintée d'idéologie aussi, comme chacun a. Donc le monde va toujours analyser toutes les situations de cette manière.
Oui.
C'est pour ça que je lis plusieurs journaux.
En fait, j'ai lu aussi le livre, là,
c'est, à mon avis, c'est une étape...
Mais
c'est un géant fragile, c'est exactement ça. Mais c'est une étape, à mon sens, assez incontournable. D'ailleurs, quand vous regardez dans tout un tas de pays, y compris les nôtres, à un moment donné ou un autre. Regardez, ça a été les majors du pétrole. Aujourd'hui, c'est les GAFAM. Dans notre pays, c'est pareil. C'était les grands groupes industriels.
Des équilibres dans le pays,
mais
quoi.
Oui, mais je crois que l'idée, le pari indien, c'est d'arriver à pousser des secteurs qui puissent s'imposer, donc, etc. Et ensuite, générer en fait une dynamique collective qui va pouvoir... C'est un pari toujours. Mais il faut commencer quelque part en fait, puisque quand on regarde la courbe que je vous ai montrée, quand même, ça a été quand même particulièrement calme jusqu'au début des années 2000. Si vous avez regardé ma courbe, entre 47 et 2000, c'est quand même pas passé grand-chose économiquement. Hein. Donc à un moment donné, il faut lancer les choses, et effectivement, après, il y a toujours un risque. Ça s'est avéré, et d'ailleurs les Américains comme nous à notre époque, ils ont fini par démanteler ces grands groupes parce qu'ils deviennent trop dangereux, et à partir du moment où l'État se dit ok, c'est bien, vous avez fait votre affaire, je démantèle, comme ça je contrôle plus facilement. Voilà. Et je pense que si c'est le cas, ça arrivera. C'est exactement le même qu'en Chine. Si c'est le cas, ça arrivera. Et je pense qu'on en est là, dans cette phase là en fait, en Inde. C'est une forme d'étape assez inévitable. C'est là parce que derrière, ce qu'il faut voir aussi, c'est que oui, bien sûr, c'est des grands groupes, etc. Mais derrière, ces grands groupes ne sont pas tout seuls. C'est des milliers de sous-traitants. C'est des milliers de petites industries, de petites compétences qui vont. Mais oui, c'est l'idée, et qui vont se développer, et ensuite rééquilibrer peut-être les choses. Donc, voilà, moi, je vois ça plutôt positivement, au sens où, à mon avis, l'idée, elle est là. Après, forcément, parfois, ça marche plus ou moins bien, parfois ça dérape, parfois ça se transforme. Mais parce qu'en fait, mais c'est aussi parce que, oui, ils ont un chômage important, mais c'est parce que là, ils partent. dans des conditions défavorables. 1,4 milliard. Et une accélération brutale. 1,4 milliard, une accélération brutale, ce sont des conditions extrêmement défavorables. Parce qu'en plus, quand vous arrivez à un certain niveau de développement, c'est comme un peu chez nous, ça s'est produit, ça continue d'ailleurs en France, ce qui est assez étonnant. Mais vous créez de plus en plus maintenant, vous créez des frustrations. Parce qu'il y a des possibilités, vous voyez les choses changer, et donc vous créez des frustrations, vous créez des besoins, et voilà, etc. Et on veut plus faire comme avant, on veut aspirer à d'autres choses, c'est tout à fait légitime, mais il n'y a pas d'emblée comme cela, dans les premières, il n'y a pas de place entre guillemets pour tout le monde. Et donc c'est la grande difficulté, c'est cet équilibre à trouver.
Dans cette étape du développement, la centralisation est un atout.
Oui,
comme on l'a vu en Chine.
Oui, il faut centraliser.
Et c'est un des problèmes de l'Inde, qui n'a pas cet atout en main.
Qui a du mal à fédérer l'ensemble, parce que c'est une terre de contraste, c'est des niveaux de développement complètement hétérogènes. C'est un monde, en fait. Voilà, c'est pas. En plus, alors, comparé à la France hyper centralisée, ça n'a strictement rien à voir, quoi. C'est un monde. C'est un monde en soi.
Des mondes.
Oui, des mondes, si vous voulez, voilà. Un univers, voilà. Ça progresse, à son rythme, mais bon, il y a des progrès assez remarquables qui ont été faits dans certains domaines, qui sont assez étonnants.
Chez les ingénieurs, l'informatique et tout ça, ils
ont très bonnes écoles, ils ont. Ils ont mis énormément l'accent sur les nouvelles technologies, ça marche très très bien, le cyber, le spatial. Ils sont devenus une puissance informatique à l'échelle du monde. Ils ont une puissance informatique et ils ont tout un tas il y a des centaines de sociétés informatiques en Inde qui travaillent pour l'Inde et pour le reste du monde. Mais c'est un pays. C'est un gigantisme, c'est très contrasté.
À quoi vous attribuez le fait que les Indiens soient brillants au niveau mathématique et informatique en général? C'est culturel, génétique?
Je pense qu'il y a une vraie orientation qui a été prise ces dernières années, ces deux dernières décennies, quand l'Inde a senti. En fait, ce mouvement vers les nouvelles technologies, etc., elle s'est dit, c'est un moteur, il faut qu'on soit dans le coup. Et je pense que des efforts remarquables ont été faits dans ce domaine-là, dans les écoles, pour développer l'enseignement des sciences,
et puis les vedettes sont allées à étudier.
Et ils sont beaucoup allés aux États-Unis et en Europe, dans tous les pays qui étaient plus avancés, mais beaucoup aux États-Unis, et d'ailleurs beaucoup sont restés. Oui. C'est ce que je disais, là maintenant vous avez dans les grandes sociétés,
les GAFAM,
vous avez Google, c'est un Indien, vous avez diaspora indienne,
et Microsoft aussi, c'est un Indien.
Et vous avez ou vice-président ou responsable, et donc ils ont très bien réussi, donc ils sont allés se former, ils se sont formés chez eux, ils ont développé. Après, le défi aussi pour l'Inde, c'est de s'assurer qu'elle puisse conserver ses cerveaux et qu'il n'ait pas tous la tentation de partir ailleurs, parce que la tentation est grande, et les États-Unis, comme d'autres, mais les États-Unis, mais comme chez nous d'ailleurs. On a toute une partie de nos chercheurs qui finissent par partir. Mais oui, mais parce que quand vous êtes chercheur en France, puisqu'on a l'économie, c'est un choix sociétal. C'est un choix socio-économique que l'on a fait depuis des décennies en France. D'accord ? C'est en gros, on vit, il faut que ça soit assez homogène, pas trop de revenus trop élevés, pas trop machin, que tout se passe bien, etc. Donc quand vous êtes un chercheur super puissant en France, vous gagnez une misère, vous allez aux États-Unis, vous gagnez 10 fois plus.
Et si vous êtes une chercheuse, c'est encore plus net.
Et puis il y a un niveau de recherche qui est
Disons qu'après,
exactement sur ce critère-là.
Après, c'est mécanique. C'est mécanique après, évidemment. Ça, c'est un effet d'engrenage.
Ça n'a pas favorisé.
Plus vous cherchez, plus vous trouvez, plus vous investissez, plus vous finissez par trouver. Et donc, mais c'est très regrettable parce qu'effectivement, on a du mal à conserver des esprits brillants qui peuvent être tentés à un moment donné. C'est pas le cas de tous, mais qui peuvent être tentés à un moment d'aller voir ailleurs parce qu'en plus, c'est pas seulement une question d'argent. C'est parce qu'en plus, ils vont avoir portes ouvertes, liberté totale pour faire leurs recherches, avoir des moyens. Donc ça change tout. Et c'est très vieux, ça fait des décennies que ça dure.
Ah oui. Après l'innovation suit.
Voilà. On va peut-être remercier notre ami
merci à vous.
D'avoir fait une petite deuxième mi-temps. Oui. Là, c'était toujours. Parce que vous voyez, la taille du groupe permet d'avoir un échange. Vraiment très familial, on va dire. Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt.
Merci, bonne continuation. Merci beaucoup.